des nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Qu'est-ce que la Wicca ? Qu'est-ce que le wiccanisme ? De quoi est fait ? Et qu'a donc à nous dire ce néo-paganisme très œcuménique, teinté de féminisme et d'écologie, venu tout droit de la West Coast des années 70 ? En 2003, c'était ce que proposait de découvrir aux auditeurs de France Culture, Michel Cazenave dans Les vivants et les dieux. Il avait pour invité Isabelle Stengers, alors que Les empêcheurs de penser en rond, maison d'édition qu'elle contribua à créer, faisait paraître Femme, magie et politique, dont elle-même signait la postface. Femme, magie et politique, traduction française de Dreaming the Dark, ouvrage paru aux États-Unis en 1982, dont l'auteur, militante écoféministe et sorcière Starhawk, alias Myriam Simios, peut être considérée comme la figure la plus notable de la Wicca féministe. À écouter sans a priori, Les vivants et les dieux, symboles et religions, Les nouvelles sorcières américaines, le mouvement Wiccan, une émission diffusée la première fois, le 29 mars 2003, sur France Culture.
Les vivants et les dieux, symboles et religions, par Michel Cazenave.
Depuis quelques décennies, on a assisté à un phénomène qui peut sembler tout à fait étrange aux États-Unis, qui est la résurrection d'un mouvement qui s'appelle le mouvement Wiccan, c'est-à-dire à travers la racine de ce mot, witch, un mouvement qui se prétend directement et ouvertement néo-sorcier et donc en même temps néo-païen. Un mouvement d'ailleurs qui est surtout irrigué par le mouvement des femmes aux États-Unis, mais aussi par les hommes qui se mettent dans ce que Jacques Lacan appelait leur position féminine. Et il vient de paraître aux éditions Les empêcheurs de penser en rond, le livre phare, le livre fondamental de ce mouvement, écrit par Stanhope, Dreaming the Dark, c'est-à-dire la manière de rêver et donc d'habiter en même temps l'obscur. Or, à travers ce mouvement, qui ne voit pas tellement dans la sorcellerie, évidemment son aspect maléfique tel que nous l'avons toujours fantasmé en Occident, mais beaucoup plus ce qu'il y a de naturel et ce qu'il y a de profondément hanté, enraciné dans la nature de la femme et dans la manière dont, à travers la magie, on retrouve en même temps une façon d'habiter l'activité politique dans un ensemble qui nous semble à nous, évidemment, particulièrement étonnant ou particulièrement bizarre par rapport à nos traditions culturelles, on voit très bien comment se dessine quelque chose qui, sans aucun doute, est inhérent à la postmodernité et qui, en même temps, nous renvoie à l'épaisseur de notre histoire, ou plus exactement, à la relecture de notre histoire. Pour comprendre ce mouvement Wiccan, nous avons aujourd'hui avec nous Isabelle Stengers, professeure de philosophie à l'Université libre de Bruxelles, qui peut essayer de nous faire comprendre quels sont les enjeux de ce mouvement, un mouvement tellement important aux États-Unis que la Wicca est maintenant reconnue comme religion officielle, au même titre, par exemple, que les églises protestantes ou que l'Église catholique.
Le mouvement des sorcières ou sorciers, en français malheureusement, il faut effectuer un choix que Witch n'impose pas d'abord en anglais, néo-païenne. peut être considéré comme typiquement américain, pour le meilleur et pour le pire, mais qu'il lui est arrivé quelque chose qui fait que cela devient non pas une proposition tout-terrain telle qu'on pourrait la prendre ou la laisser, mais quelque chose qui peut obliger à réfléchir, même en France. La France est peut-être le pays où c'est le plus difficile, parce que c'est peut-être le pays où les valeurs de rationalité, d'humanisme laïque sont les plus développées et peut-être les plus agressives par rapport à tout ce qui peut ressembler de près ou de loin à une espèce de, entre guillemets, on peut prévoir les disqualifications, à une espèce de melting pot sentimental ou mystique à l'américaine. Mais je crois que le tournant qui a été pris par ce groupe au début des années 80 et qui les a rendus capables de devenir des acteurs et des actrices typiques des mouvements contre la globalisation depuis Seattle, les constitue en quelque chose qui, en tout cas moi, en tant que penseuse européenne, est très peu, attirée par des problématiques de type New Age. En tout cas moi, je me suis trouvée en étrange contemporanéité, non pas avec telle ou telle proposition précise, mais avec la prise sur qu'est-ce qui nous est arrivé et comment espérer dans ce qui nous est arrivé, en prise tout à fait étonnante, surprenante. Le livre de Starhawk qui est publié, dont le titre américain était « Rêver l'obscur », Dreaming the Dark, est un livre qui m'est arrivé un peu par surprise. Quand je l'ai lu, j'étais prête à fermer le livre à n'importe quelle page au moment où j'aurais l'impression qu'on me proposait un message ésotérique, un message de « adhérer à ceci et votre vie sera transformée », un message de type New Age, et je suis arrivée au bout du livre perplexe, doublement perplexe, qu'est-ce que j'allais en faire dans ma vie et comment parler de cela en milieu francophone.
Sagt mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben? Sagt mir, wo die Blumen sind.
Déjà au départ, Isabelle Sengers, on pourrait voir comment ce mouvement est né, parce que je dirais, bon, dans la généalogie, il y a d'abord le mouvement féministe américain. Et d'une certaine manière, il n'était pas du tout évident, et on l'a bien vu en France, il n'est pas du tout évident que ça évolue comme ça et de ce côté-là.
C'est ça. Mais le mouvement féministe américain, bon, il est multiple. Et ici, on a affaire au mouvement féministe tel qu'il s'est développé sur la côte ouest, du côté de San Francisco, dans ces milieux qui ont été non seulement au centre d'une expérimentation dont on dit désormais l'échec, hein, les locks toxicaux, etc., mais qui a été un véritable mouvement de création culturelle et de création culturelle en rapport de, comment dirais-je, d'étrangeté un peu expérimentale avec l'héritage occidental, San Francisco, et de l'autre côté. Et dans ces mouvements donc féministes, il y a eu une grande partie d'expérimentation qui intègre la dimension politique, la dimension affective, la dimension de qu'on appelle aujourd'hui empowerment, c'est-à-dire de trouver la force de penser autrement ce qui est arrivé. Mais en même temps, à San Francisco et ailleurs, continuait à se développer une réflexion critique et un activisme, comme disent les Américains, qui était héritier direct de la guerre du Vietnam, qui continuait avec des protestations écologiques, des mouvements de solidarité avec les populations indiennes, indigènes. Il y avait aussi l'ensemble de ce qui s'est développé à la fin des années 70, des mouvements de non-violence active. Et je crois que c'est cette espèce de mélange auquel beaucoup des acteurs participaient en parallèle qui a produit cette configuration nouvelle, cet agencement nouveau et qui transforme au fond l'ensemble de ses composantes. Et elles se sont appelées sorcières en prenant au fond le terme, Starhawk l'explique, le terme qui peut être le plus gênant. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça voudrait dire, se refabriquer comme sorcière ? Eh bien, cela oblige à penser, cela gêne nos habitudes, et donc elles ont délibérément pris pour se baptiser le terme qui avait le plus de chances d'obliger à penser ceux qui l'affrontaient, ceux qui se disaient « mais qu'est-ce que c'est que ces sorcières ?» et non pas un terme plus usuel qui irait de soi et qui ferait qu'on se dirait « mais c'est des groupes comme nous ». Donc ce sont... Et ce qui est de très intéressant, c'est que cet agencement, je dirais, expérimental, c'est-à-dire qu'elles ont fait quelque chose d'assez neuf avec toute une série de traditions qui coexistaient, s'est produit à un moment que Starhawk raconte, qui est le début des années 80, c'est-à-dire le moment où Reagan est élu et prête serment de président des États-Unis. C'est à ce moment-là que pour la première fois, celles qui étaient initiées comme sorcières ont décidé non pas de suivre un rite tel que, d'une manière ou d'une autre, elles pensaient que la tradition l'avait transmis depuis les pratiques sorcières anciennes, mais de créer un rite, de créer un rite de lutte contre le désespoir. La question qu'elles posaient au rite n'était pas de continuer des rites anciens, mais de faire exister une capacité, de demander à ces rites une capacité de continuer à lutter ensemble alors qu'elles savaient qu'elles allaient affronter le pire.
C'est de prendre les différents éléments. Isabelle Stenger se prenant déjà, ce qui est déjà le plus apparent, si on peut dire. Parce que s'appeler sorcière, même aux États-Unis, ça a un sens. Enfin, on connaît les sorcières de Salem, etc. Derrière, c'est renvoyé quand même à une tradition occidentale dans laquelle la sorcière, il y a du diable et du diabolique derrière, d'une part. Et d'autre part, la grande déesse mère, parce qu'on voit bien le thème, comment il revient, la grande déesse mère, c'est quand même remettre à l'honneur ce contre quoi le monothéisme s'est toujours battu. On voit bien dans la Bible comment il faut se défaire des cultes des grandes déesses, etc. Donc comme si, à l'évidence, on allait immédiatement chercher le plus profond refoulé de notre culture.
C'est également quelque chose qu'elles ont fait de manière très délibérée. La connotation diabolique... Elle est absolument refusée. Il y a dans leur proposition d'existence également une proposition de lecture sur ce qui nous est arrivé. Et si elle s'appelle néo-païenne, c'est parce que pour elle, c'était dans les campagnes, en dehors des villes, qui étaient déjà monothéisées, que subsistaient des traditions, des savoir-faire, des savoirs et des personnages, les sorcières, qui au fond faisaient partie de cette cohésion de la campagne, et qui continuait parallèlement à un monothéisme triomphant. Et ce serait lors de la Renaissance. La Renaissance est le moment où surgit l'homme humaniste, mais c'est aussi un des moments de pointe par rapport à la chasse aux sorcières, une nouvelle intensité. Elles réfléchissent cette coïncidence. Et pour elles, les sorcières ont été diabolisées et ont été persécutées dans l'acte même où la notion de propriété privée, de propriété de la terre, était redéfinie. C'est en Angleterre notamment, où la chasse aux sorcières a vraiment fait rage, l'épisode des enclosures, c'est-à-dire qu'une série de terres qui étaient des terres qui appartenaient en fait au seigneur, mais qui étaient utilisées par les communautés villageoises, les communautés paysannes, sont clôturés, c'est-à-dire que commence une énorme crise de la paysannerie qui va donner d'ailleurs l'émigration vers les villes et le début du capitalisme industriel. Et c'est pour elle, dans une lecture qui unit marxisme et tradition sorcière qu'elle tente, c'est le moment où pratiquer la chasse aux sorcières, c'est désorganiser, c'est détruire ces communautés qui résistaient dans leur mode d'existence, dans leur manière de faire, dont les sorcières faisaient... Dont les sorcières, c'est-à-dire les sages-femmes, celles qui, à l'époque, vont être interdites de pratiques de type médical. Il y a toute une réorganisation de la vie collective qui fait que chasser les sorcières, dire qu'elles sont diaboliques, c'est s'attaquer au cœur même des communautés paysannes qui, au fond, occupaient et utilisaient le sol sur un mode désormais incompatible avec le type de propriété privée, le type d'usage et abus de propriété privée qui allait devenir dominant à partir du XVIIe siècle, XVIIIe siècle. Donc pour elle, se dire sorcière, c'est tenter de mettre l'épisode monothéiste, elles ne sont pas anti-monothéistes, mais de plonger l'épisode monothéiste dans une histoire qui serait à la fois beaucoup plus ancienne et dont elle suppose qu'elle a continué en sourdine dans les communautés paysannes, alors que tout ce que nous connaissions des communautés urbaines nous parle de monothéisme, de christianisme. Et c'est aussi pour elles tenter de trouver au fond leur propre inscription dans l'histoire et dans les populations, parce que c'est quelque chose qu'elles disent avoir appris des communautés américaines natives, comme elles disent, qui est, c'est une scène qu'elle raconte, Starhawk, qui est une vieille indienne qui dit à ses jeunes gens pleins d'enthousiasme qui viennent les aider, c'est très bien de venir nous aider, mais qui êtes-vous? Avec quoi venez-vous? Quelles sont vos racines? Quelles sont vos choses, vos objets? Et ça les a fait beaucoup réfléchir, puisque effectivement, l'idée qu'on est là disponible à aider tout le monde, mais que les ressources qu'on a pour aider, on ne les montre pas, on ne les présente pas, on est incapable de se présenter, était tout à coup un problème culturel et politique. Et le choix de se référer aux traditions sorcières est le choix de se référer à une histoire, dramatique, à une histoire catastrophique de persécution et à un temps long où, au fond, ce qui est pour nous l'horizon du progrès, c'est-à-dire le surgissement de cet homme humaniste, laïque, autonome, dont nous avons hérité depuis la Renaissance, est remis en perspective, est plongé dans une interrogation, est mis en indétermination. Il s'est produit là quelque chose de grave que nous pensons avec les mots d'ordre du progrès, mais si nous pensons que des dizaines de milliers de femmes ont été brûlées à la même époque, qu'est-ce que ça donne ? Encore une fois, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que cela ne demande pas que nous croyions tout à coup à l'incroyable, c'est-à-dire que nous fassions confiance au fait que, au premier degré, ce que nous appelons le surnaturel existerait. Là aussi, elles obligent à penser, c'est-à-dire que la définition que Starhawk donne de la magie est une définition qui d'abord, encore une fois, dépsychologise. Elle définit la magie comme un art de modifier la conscience qui donne forme aux choses de manière délibérée. Un art, c'est-à-dire craft en anglais, un art, une pratique fabricatrice qui joue avant tout sur la manière dont nous produisons une conscience ou une non-conscience des choses. D'où les rituels. Les rituels sont là pour produire un nouveau type de conscience de la situation, de nos capacités d'agir, de ce à quoi nous avons à faire en nous, avec les autres et dans le monde. Et pour moi, c'est très important que l'on puisse dire « oui, cela c'est de la magie » plutôt que de, au contraire, renvoyer, comme c'est souvent le cas, des événements qui importent. que ce soit, mais que ce soit même se dresser sur ses deux pieds pour un petit enfant ou apprendre à lire, de renvoyer tout ça à quelque chose de l'ordre de la normalité ou de la psychologie, etc. Je préfère vraiment des mots comme ça qui choquent, mais qui disent « attention, ici se produit quelque chose qui change tout et que nous n'avons pas le pouvoir d'expliquer, parce que c'est le changement qui va produire le nouveau type d'explication. C'est quand le petit homme réussit à se tenir sur ses deux pattes que son monde change et qu'on peut commencer à le décrire comme décidant d'aller là, de faire ceci, etc. Donc, ce respect de l'événement au sens où il transforme la manière même dont nous décrivons les choses, dont nous les définissons, dont nous produisons la pensée de ce qui est devenu possible et envisageable. Et je trouve que cet usage du terme magie, qui le désurnaturalise, est très important parce qu'il nous rappelle que, au fond, ce que nous jugeons être des explications satisfaisantes sont surtout relatives à nos habitudes. Je retrouve ici une des vieilles définitions de la philosophie qui commence avec l'étonnement. Je dirais que réussir à recréer de l'étonnement et à célébrer l'événement avec, par exemple, cet adjectif magique, c'est quelque chose qui permet de s'adresser autrement à ce que nous voulons faire. Comment fabriquer des situations qui nous rendent capables ensemble de ce qui nous désespérerait individuellement.
À ce que vous disiez au départ, c'est-à-dire que cette remise dans la longue durée de l'histoire, en quelque sorte, et cette rupture de la Renaissance, d'abord, c'est se rappeler qu'effectivement, la grande chasse aux sorcières, c'était le XVIe et XVIIe siècle, mm-hmm. contrairement à ce qu'on...
Mm-hmm.
À ce qu'on
c'est à ce, pas à ce, l'obscurité
à ce,
médiévale.
À ce qu'on imagine d'habitude. Et on voit très bien, lorsqu'on voit les statistiques qui ont été faites par les historiens maintenant, que généralement, il y a pratiquement 4 femmes inculpées pour un homme. Il y a vraiment une dissymétrie absolument extraordinaire. Et est-ce que cela n'a pas à voir aussi, c'est une idée qui me venait en vous écoutant, de dire, on sait très bien que le statut juridique et économique de la femme se dégrade énormément au moment lorsque surgit le romanisme, c'est-à-dire que la femme au Moyen-Âge et fin Moyen-Âge avait des pouvoirs juridiques, des capacités économiques, qu'elle perd complètement à la Renaissance. C'est-à-dire que l'humanisme, en réalité, est en même temps, disons, hostile à la moitié du genre humain.
Ben, comme disait Deleuze, je crois que l'humanisme crée un étalon, mais pas un étalon au sens chevalin, non, un étalon au sens neutre. La norme à partir de laquelle se mesurent les écarts, les anormalités, etc. Et l'étalon, c'est effectivement l'homme. On ajouterait aujourd'hui l'homme blanc, mais à l'époque, on ne connaissait à peu près que les blancs. Mais c'est l'homme adulte, rationnel, autonome. Et du coup, les femmes sont décrites en écart par rapport à ça. Et on a considéré que c'était un très grand progrès de dire après, mais au fond, ces sorcières, le diable n'existe pas, donc c'était certainement pas des alliés du diable, des vendus au diable, c'était simplement de malheureuses folles hystériques. Et là, l'étalon a refrappé une nouvelle fois, c'est-à-dire que au lieu qu'on essaye de penser ce qu'il y avait d'inquiétant avec ces sorcières, c'est-à-dire ces manières de faire qui éventuellement continuaient dans les campagnes, et qui faisait partie de la consistance, de la cohérence des communautés paysannes, de leur capacité aussi éventuellement de résister à ce qui allait les exproprier, les détruire une première fois, puisqu'elles ont été encore détruites depuis, on a préféré psychologiser la chose et dire qu'elles étaient simplement hystériques, ce qui est la chose qui domine à partir du 18e, 19e siècle. C'était une lamentable erreur, on s'en est pris à ces malheureuses. Mais la femme est devenue une malheureuse. Une malheureuse toujours en écart. Et l'un des grands combats féministes du XXe siècle, ce serait de la fin du XXe siècle, parce que la lutte féministe du début du XXe siècle, c'était avant tout que les femmes reçoivent les mêmes droits que les hommes. Mais ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est une... et dont les sorcières sont le surgissement et une espèce de pensée non académique mais active, c'est une mise en question culturelle profonde des rapports qu'on appelle désormais usuellement gender, c'est-à-dire des rapports de genre, de la construction historique des genres. Mais de ce point de vue-là, on peut dire que l'analyse et la recréation et l'invention n'ont véritablement fait que commencer, sont à leur tout premier pas. Si on regarde par exemple comment est organisée la recherche scientifique à l'heure actuelle, on peut dire que les femmes ont les mêmes droits, mais que le fait qu'elles sont femmes, c'est-à-dire qu'elles sont susceptibles de porter des enfants, est immédiatement et directement un handicap. Et un handicap qui n'est en rien pensé. Ce qu'on leur demande, c'est d'être héroïque, c'est-à-dire d'apprendre à sacrifier quelque chose, ou bien d'apprendre à s'organiser sur un mode un peu abstrait, pour être à la fois parfaitement mère de famille et parfaitement chercheuse. Mais en tout cas, et c'est pas pour dire qu'il faut leur donner des privilèges ou ceci ou cela, il faut se rendre compte, et c'est ça qu'elles nous demandent au fond, c'est ça que demande ce féminisme culturel, que c'est le métier même de chercheur tel qu'il a été défini sur le mode de la compétition, sur le mode de l'urgence, sur le mode de la mobilisation, qui est une définition typiquement gender, typiquement masculine. Pour être chercheur, il ne faut pas perdre son temps, il faut être mobilisé. Tout temps perdu, que ce soit pour des enfants ou pour n'importe quoi, est un temps qui vous met en danger, qu'on n'a pas le droit de perdre. Qu'est-ce que c'est que cette figure du chercheur qui se prolonge et qui, comme par hasard, se trouve son révélateur dans la difficulté que les femmes ont à être à la fois femmes, ayant des enfants, et chercheuses. Donc ici, la femme sert de révélateur à quelque chose qui concerne et les hommes et les femmes, c'est-à-dire faire de la recherche, c'est se présenter comme une espèce de moine chercheur mobilisé qui ne pense qu'à sa recherche, pour qui la vie privée, optimalement, devrait se faire avec la protection d'un époux, d'une épouse qui s'occupe du repas, des enfants, etc., parce que le chercheur, lui, est avant tout un être mobilisé. Et toutes les manières de faire qui font passer la mobilisation avant la pensée pratique, la pensée active, la pensée concrète qui prend du temps, toutes ces manières de faire qui en fait respirent la mobilisation, sont des choses qui continuent à dire que l'étalon, c'est l'homme adulte, blanc, normal, rationnel. Et que le reste est en écart et que le reste doit négocier autour de cet étalon qui est la chose normale à faire. La déesse, elle est immanente. L'une des choses qu'elles disent de la déesse, c'est que les rites de la déesse sont l'ensemble des occasions par où passent la vie et le plaisir. Donc la déesse n'est nulle part ailleurs que là où passe de la vie, du plaisir, de la joie, de la créativité, etc. Ben, c'est quelque chose d'extrêmement exigeant, se dire qu'on honore la déesse que dans les occasions où on réussit à fabriquer ensemble, ou pour soi-même, ou ensemble, collectivement, du plaisir et de la vie et de l'invention, ben voilà un extraordinaire programme politique. S'il faut nommer la déesse pour faire tenir cette exigence, qui est une exigence d'immanence, s'il faut nommer la déesse pour faire tenir cet agencement qui demande ça, moi je suis prête à nommer la déesse.
Revenons-en au problème que nous avions laissé de côté, Isabelle Stengers, oui. Qui est le croisement avec la politique.
Oui.
Parce qu'on voit très bien que dans notre tradition, d'abord, tout est séparé, la politique a un certain style à elle, et ne soit surtout pas se mêler à, je dirais, une relation, appelons-la métaphysique, religieuse, magique, ça n'a aucune importance, avec la nature ou avec l'humanité, ou alors on va du côté des intégrismes, des mouvements religieux radicaux, etc. Or, à l'évidence, ce n'est pas du tout de ça qu'il s'agit, et on a l'impression qu'on retrouve justement, enfin qu'on retrouve et qu'on réinvente en même temps, parce qu'on fait du neuf, quelque chose dans lequel la vie politique, c'est-à-dire finalement la vie en commun, la vie de tous dans la cité, est tissée, je dirais, est tissée à l'horizontale, en trouvant du sens, mais le sens que, d'une certaine manière, on crée au fur et à mesure.
C'est un sens que l'on crée au fur et à mesure, mais c'est un sens qui se, dans le cas justement de ce devenir des sorcières qui a commencé au début des années 80, c'est un sens qui se veut politique, qui se sait politique, qui annonce que la Terre et les humains qui la peuplent sont en danger. C'est quelque chose quand Starhawk parle de Dreaming the Dark, rêver l'obscur, c'est parce que nous ne devons pas, pour elle, continuer à rêver notre monde simplement par contraste avec un avenir qui serait pleinement lumineux. Nous devons réussir à rêver, c'est-à-dire à penser, c'est-à-dire à imaginer aujourd'hui cet obscur qui, pour le moment, nous rend impuissants. Cet obscur que nous rêvons pour le moment comme menace et qui du coup devient menace et que nous pourrions rêver autrement pour en faire un allié d'invention. Donc cesser d'opposer la lumière et l'obscur avec l'ensemble des binarités qui vont avec du genre être élu ou bien tomber. Par exemple, cesser de militer. Tomber de la classe élue des militants à ceux qui laissent faire, etc. Donc l'ensemble de ces binarités, lumière-obscurité, qui en fait structurent beaucoup nos manières de penser, qui sont les bons et qui sont les mauvais, etc. Donc elle tente de penser politique, mais comme on l'a dit, c'était un vieux slogan, mais on n'a encore jamais vraiment réussi à le faire, penser politique autrement. Et autrement, pour elle, ça veut effectivement dire que tout le monde est d'accord pour penser que le monde pour lequel on lutte, comme disent gentiment certains, mettra l'homme au milieu ou mettra les vivants au milieu ou se réconciliera avec la nature, etc. Mais on reporte à demain tous ces soucis. Tandis qu'aujourd'hui, on veut penser en termes d'affrontement rationnel, économique, rapport de force, etc. Or, cette réduction à l'économique, cette réduction au rapport de force, c'est exactement ça qui nous est arrivé. Comment lutter pour quelque chose de différent si on ne crée pas dans les moyens même de la lutte, dans l'invention des moyens de lutte, cette différence en tant que vivante, en tant que force vivante? Et pour moi, c'est quelque chose de tout à fait important aussi. Parce que, primo, j'ai connu, mais beaucoup ont connu, des groupes militants qui sont aussi tristes, aussi ennuyeux, aussi pleins de rapports de force que ce contre quoi on lutte. D'où viendra alors ce nouveau ce sera demain, mais quoi, demain naîtra un homme nouveau? Ça, c'est seulement si on croit aux vieilles théories de l'aliénation, comme quoi si on lève l'aliénation, va surgir un charmant homme nouveau, libéré de tout ce qui l'emprisonnait. Non, elles n'ont pas cette théorie de l'aliénation comme extérieure, telle qu'il suffirait de la lever pour que les hommes se retrouvent non séparés. Elles pensent que ce qu'on appelle aliénation, ce qu'elles appellent d'ailleurs mise à distance, c'est comme ça qu'on l'a traduit, est en nous aussi. Et que ce qu'on peut demander à l'action politique, c'est aussi une forme de guérison, healing en anglais, c'est pas médical healing, mais de guérison des blessures, des marques d'impuissance, des désespoirs profonds que le monde nous a fait et que beaucoup de groupes politiques continuent à utiliser, dont ils ne se sortent pas. Donc il y a, je crois, et ça rejoint encore quelque chose que Guattari disait, Félix Guattari disait quand il disait le désastre écologique est triple. Il atteint les subjectivités individuelles, les groupes et la Terre, le rapport de l'humanité à la Terre polluée, surexploitée, etc. Il faut traiter les trois en même temps. C'est une secte, fait partie du même problème au fond. Ce qu'elles ont hérité, et notamment des féministes, c'est l'idée que ces transformations sont des productions de collectivité qui doivent en tant que telles être protégées. On n'entre pas là-dedans comme dans un moulin. Donc il s'agit de parfois être en public et parfois produire des processus de transformation protégés, comme le cercle des sorcières protège aussi. Alors, si tout ce qui doit se protéger pour avoir lieu est secte, ça veut dire que les sectes ont gagné. Ça veut dire que nous ne connaissons plus rien qu'un monde anonyme de quiconque, où tout le monde est interchangeable, où toute parole doit atteindre n'importe qui et doit être comprise par n'importe qui, sauf évidemment les paroles spécialisées, mais ça, on ne s'en occupe pas. Ou bien alors les sectes. Donc le ravage écologique est terminé. Et final, je veux dire, il est achevé. On n'existe plus comme groupe auquel appartenir et devenir dans l'appartenance que les sectes. Donc c'est le ravage total. Ce que je dirais quant à moi, c'est que tout groupe qui se protège est un groupe qui court des dangers, effectivement. Je veux dire, qui court des dangers propres à qu'est-ce que c'est appartenir, qu'est-ce que c'est devenir. Ce ne sont pas des choses simples, ce sont des choses périlleuses. Mais que les interdire en disant ce sont des sectes, c'est la solution par le vide. Ce que je dirais, je crois que les sorcières le font, c'est dès lors qu'on produit des groupes de transformation comme ça, il faut faire attention. Faire attention aux possibilités de devenir monstrueux, aux possibilités de devenir clos par définition, clos contre le monde et non pas clos pour le monde. Il faut faire attention, c'est-à-dire ce qui est important peut aussi être dangereux, ce qui est remède peut aussi devenir poison. Il nous faut des garde-fous, il nous faut un savoir-faire qui empêche les devenir poison. Et je crois que les anciennes traditions spirituelles, qui étaient des traditions avec initiation, etc., avaient des garde-fous, avaient une pensée des dangers qui pouvaient les menacer. Et c'est comme ça que je les honore, moi, parce qu'il y avait là un véritable savoir des devenir humains, des devenir des participants, de ceux qui appartiennent dans cette tradition. Il y avait une véritable pensée qui n'était pas naïve quant au risque, quant au danger, quant à la nécessité de faire attention. Et cette nécessité de faire attention, je crois, on l'a complètement oubliée. On demande des choses inodores, insipides et incolores qui ne peuvent ni empoisonner ni fortifier. Et on envoie dans le public des purs poisons. Des purs poisons, mais sans y penser, parce qu'on a bien le droit. Enfin, ce qu'on voit à la télévision, etc., c'est le désastre écologique. Mais ça, tout le monde l'a déjà dit, hein. Le maillon faible, enfin, tout ce à quoi on habitue le public. Mais on envoie de purs poisons. Mais puisque c'est ouvert, puisque tout le monde peut voir, tout le monde peut participer, on se lamente simplement. Mais on est dans un monde qui ne peut plus penser. Comment faire attention, pris entre le « on a bien le droit » et « sinon c'est de la censure » et « où censurer ?» Ce sont toutes des paroles de pouvoir. C'est celui qui se demande « où censurer ?» et celui qui a le pouvoir de censurer par rapport à une population qu'il définit comme, elle, vulnérable et incapable de penser. Donc c'est un signe du désastre écologique. Puisqu'il y a ceux qui se posent le problème et qui se posent le problème pour protéger les faibles. Ce que font les sorcières, c'est nous forcer à penser la déproduction de forces immanentes et multiples dans la population, et donc à penser aussi l'intérêt de toute cette multiplicité qui commence de groupes activistes, de groupes qui cherchent d'où leur viendront le pouvoir de résister autour de ce qui leur importe. Je crois que c'est une pensée qui ne... Cette pensée de sorcière, encore une fois, c'est une pensée qui ne nous dit pas comment faire. Voilà la solution, clé sur porte, réunissez-vous, soyez sorcière, tracez vos cercles, adressez-vous aux quatre dimensions. C'est un peu difficile d'imaginer, mais ça oblige à penser comment faire advenir ce dont nous avons besoin pour résister et ce dont nous avons besoin qui parle déjà aujourd'hui de ce qui est le possible pour lequel nous résistons. Can you go up on the right side?
Pour le 8 avenue Kennedy, nous arrêterons à la boucherie.
C'était Les Vivants et les Dieux, une émission proposée par Michel Cazenave, avec aujourd'hui la participation de Isabelle Stengers. Mixage Jean-Michel Bernot, Aurélie Fortin, réalisation Isabelle Huel. Cette émission a été diffusée la première fois le 29 mars 2003 sur France Culture. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr.